VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 2 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée-Bissau, la victoire de l'opposant Oumaru Sissoko Embalo est contestée par son adversaire Domingos Simões Pereira, qui dénonce des fraudes.
En Angola, Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président Eduardo dos Santos, nie toute corruption et dénonce des accusations politiques.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a demandé l'immunité au Parlement. Il est inculpé pour corruption dans une série d'affaires.
En Irak, les manifestants se sont retirés hier du secteur de l'ambassade américaine à Bagdad sur ordre des paramilitaires du Hashd al-Shaabi.
En Corée du Nord, Kim Jong-un annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires et les tests de missiles balistiques intercontinentaux.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée-Bissau, l'opposant Oumaru Sissoko Embalo a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, une victoire contestée par son adversaire Domingos Simões Pereira, estimant qu'il y a eu fraude électorale. Les précisions de Jacques Aristide.
Domingos Simões Pereira, chef du plus grand parti du pays, le PAGC, lui-même arrivé en tête lors du premier tour, parle d'irrégularité et de manipulation. Il dit rejeter les résultats du second tels que proclamés par la commission électorale.
Domingos Simões Pereira, 254 468 voix, soit 46,45%. Oumaru Sissoko Embalo, 293 359, soit 53,55%.
L'enjeu du scrutin était de mettre fin à un blocage politique en Guinée-Bissau, pays d'1,8 million d'habitants, englué dans la crise depuis 4 ans à cause de la mésentente entre le PAGC et José Mário Vaz, le président sortant arrivé seulement à la 4e place au premier tour et qui en larmes a appelé au retour de la stabilité. Le président élu, également général de brigade de réserve, demande à tous les Bissau-Guinéens, dont beaucoup vivent à l'étranger, de contribuer au développement de ce pays qu'il dit martyrisé. Oumaru Sissoko Embalo.
Redresser la Guinée-Bissau, d'abord, c'est pour donner la confiance, l'assurance à mon peuple et une présidente d'inclusion, pas d'exclusion.
À 47 ans, Oumaru Sissoko Embalo s'est posé en rassembleur. Il va devoir composer avec un parlement dominé par le PAGC.
Il faut dire qu'en Angola, la guerre qui oppose l'ex-président José Eduardo dos Santos au gouvernement de son successeur João Lourenço a repris de plus belle avec la décision de la justice de bloquer les actifs de sa richissime fille Isabel dos Santos. Précision de John Linden.
Tout a commencé lundi lorsque le parquet général angolais a annoncé qu'un tribunal de Luanda avait ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs de Madame dos Santos, dont plusieurs entreprises angolaises, notamment Sodiam, qui opère dans le diamant, et Sonangol dans le pétrole. Isabel dos Santos est soupçonnée, avec son époux d'origine congolaise, Cindy Kadokolo, et leur conseiller financier portugais Mario da Silva, d'avoir détourné plus $1 milliard de fonds publics. Selon la justice, Isabel dos Santos a récemment tenté de protéger ses avoirs en les transférant du Portugal, ajoutant que la police portugaise avait intercepté 10 millions d'euros à destination de la Russie. L'opposition s'est réjouie du gel des avoirs de Madame dos Santos. Mardi soir, Isabel dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique et que les Angolais appellent la princesse, a dénoncé des allégations truffées de mensonges évidents, d'erreurs et d'omissions et manifestement arbitraires et motivées politiquement. L'Angola est le deuxième pays producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, mais selon l'ONU, plus d'un tiers, soit 36% de ses 30 millions d'habitants, vivent dans une pauvreté extrême.
En Tunisie, Habib Djemli, le premier ministre désigné par le parti islamiste Ennahda, a annoncé mercredi avoir choisi son futur gouvernement, présenté comme composé de personnalités indépendantes. Monsieur Djemli a simplement indiqué qu'il compterait 40% de femmes et plus d'une moitié de jeunes, sans en détailler la liste. Pour sa part, le bureau du président Kais Saied a dit à l'AFP mercredi soir que cette liste n'était pas définitive et a insisté sur la poursuite des négociations. Cette liste doit encore obtenir l'approbation de la majorité absolue au Parlement, majorité que ne détient pas Ennahda.
En Libye, 3 civils ont été tués et 3 autres blessés mercredi dans un bombardement aérien contre une ville au sud de la capitale Tripoli, selon un porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale. La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis que l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, a lancé le 4 avril son offensive pour s'emparer de la capitale, siège de ce gouvernement reconnu par l'ONU.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Irak, les manifestants pro-iraniens ont quitté mercredi les abords de l'ambassade des États-Unis à Bagdad sur ordre des paramilitaires du puissant Hashd al-Chabi. Ils ont donc mis fin à un épisode de violence qui a culminé avec une attaque inédite contre la chancellerie. Des détails avec Jean-Roger Bion.
La veille, mardi, le président américain Donald Trump avait menacé de faire payer le prix fort à l'Iran, accusé d'avoir orchestré l'attaque de son ambassade mardi, tout en assurant ne pas s'attendre à une guerre avec Téhéran. Pour sa part, l'Iran a convoqué le chargé d'affaires suisse pour protester contre, je cite, le bellicisme américain. Et le guide suprême Ali Khamenei a dit à M. Trump, vous ne pouvez rien faire, tout cela n'a rien à voir avec l'Iran. L'attaque de l'ambassade, les raids des États-Unis et les attaques à la roquette les ayant précédés contre des installations abritant des Américains font redouter que l'animosité irano-américaine ne devienne un conflit ouvert en Irak, pays allié des États-Unis et de l'Iran. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a reporté une tournée en Ukraine, au Bélarus, au Kazakhstan et à Chypre pour suivre la situation en Irak.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption dans une série d'affaires, et en lice pour les législatives de mars, a dit mercredi vouloir demander officiellement l'immunité au Parlement israélien. Bagassi Koura.
Oui, hier, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, Netanyahou a indiqué qu'il avait l'intention de faire cette demande au président de la Knesset, le Parlement israélien. Ce, conformément à la loi, a-t-il ajouté, afin de continuer à vous servir pour le futur d'Israël. Netanyahou sait qu'il est coupable, a immédiatement réagi Benny Gantz, grand rival du Premier ministre, dans une conférence de presse pour l'ancien général à la tête de la formation centriste Kaol Lavan, bleu-blanc. Cette demande d'immunité constitue une tentative évidente d'échapper à la justice. Le 21 novembre, le procureur général Avishai Mandelblit a annoncé l'inculpation de Netanyahou pour corruption, malversation et abus de confiance dans 3 affaires différentes, des allégations que le Premier ministre refute et qualifie de chasse aux sorcières. Le procureur Mandelblit lui a donné jusqu'au 2 janvier pour présenter une demande d'immunité dans ces affaires.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé hier la fin du moratoire sur les essais nucléaires et les tests de missiles balistiques intercontinentaux. Il a aussi promis une action qu'il a qualifiée de « sidérante » contre les États-Unis, qui ont toutefois réagi avec modération. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Nous n'avons aucune raison de continuer à être liés unilatéralement par cet engagement, a indiqué hier l'agence d'État nord-coréenne, rapportant des propos de M. Kim aux dirigeants de son parti. Des déclarations qui contredisent la diplomatie nucléaire des 2 dernières années, le président américain Donald Trump a évoquant régulièrement, par exemple, la promesse que lui aurait faite le dirigeant nord-coréen. Nous avons bien signé un contrat qui parle de dénucléarisation. Je pense que c'est un homme de parole, a réaffirmé mardi Donald Trump. Mais les pourparlers entre les 2 capitales broient le flou depuis l'échec d'un nouveau sommet Kim-Trump à Hanoï en février 2019. Inquiet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué que la diplomatie était la seule voie vers une paix durable. Nous voulons la paix, pas l'affrontement, a répliqué le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Si le président Kim a renié ses engagements pris auprès du président Trump, c'est profondément décevant, regrette-t-il, souhaitant que le dirigeant nord-coréen ne suive pas ce chemin.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le ministère namibien de l'Environnement vient de signer un accord de leasing avec un producteur indépendant d'énergie pour la mise en place d'une centrale d'énergie renouvelable de 44 MW pour un coût estimé à 106 millions de dollars, écrit l'agence Ecofin. Cette centrale fait partie de la stratégie et du plan d'affaires quinquennal qui vise à s'appuyer sur les énergies renouvelables afin de conduire le pays vers l'autonomie énergétique. La Namibie importe plus de 60% de sa consommation électrique depuis l'Afrique du Sud. L'Office national marocain des chemins de fer a réceptionné la première locomotive électrique sur les 30 prévues qui ont une vitesse maximale de 160 km/h. Ecofin indique que la livraison s'effectuera à raison de 2 locomotives par mois. Ce projet est entièrement financé par un prêt accordé par l'État français d'une maturité de 40 ans. Pour terminer, en République du Congo, la société canadienne Zenith Energy a démarré des pourparlers avec le producteur AAOG pour acquérir ses parts sur le champ pétrolifère de tilapia pour 1 million de livres sterling. Ecofin rapporte que Zenith prévoit de démarrer les activités de forage du puits dès qu'elle prendra le contrôle opérationnel de la licence. Le gouvernement congolais contrôle 44% du champ tilapia. Si les négociations réussissent, elles marqueront la première acquisition africaine de Zenith Energy.
Les sports à présent avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La 21e journée du championnat d'Angleterre, première victoire pour Arteta avec Arsenal. Leicester consolide sa place de dauphin.
Après 3 matchs sans victoire, le nouvel entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a remporté son premier succès mercredi soir à l'Emirates Stadium de Londres contre Manchester United 2-0. Les Fox de Leicester consolident leur deuxième place en s'imposant à Newcastle 3-0. Victoire laborieuse par ailleurs de Manchester City qui assure le minimum face à Everton 2-1. Tottenham et Wolverhampton battus à Southampton 1-0 et Watford 2-1 ratent l'occasion de se rapprocher de Chelsea, tenu en échec à Brighton, 1-0.
Rechute de Pogba, blessé à la cheville et qui sera absent plusieurs semaines.
Oui, le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, déjà privé de compétition pendant 3 mois pour une blessure à la cheville, a rechuté. Pogba avait fait son retour il y a 10 jours lors de la défaite de Manchester United 2-0 à Watford. Il était également sorti du banc contre Newcastle 4-1 4 jours plus tard. Il n'a pour l'instant été titulaire que 6 fois sous les couleurs de Manchester United cette saison, toutes compétitions confondues. Cette rechute intervient alors que s'ouvre le mercato d'hiver et que le Real Madrid demeure intéressé par le milieu de terrain français qui avait fait part avant la saison de ses envies de départ, mais un transfert du français cet hiver apparaît peu probable.
Basketball, décès de l'ancien patron de la NBA, David Stern.
David Stern, emblématique patron de la NBA de 1984 à 2014, est décédé mercredi à 77 ans, 2 semaines après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale, a annoncé la NBA. L'actuel commissaire de la Ligue, Adam Silva, qui lui a succédé en 2014, dit que grâce à David, la NBA est une marque vraiment globale, ce qui fait de lui non seulement l'un des plus grands commissaires sportifs, mais l'un des leaders économiques les plus influents de sa génération. Bill Russell sur Twitter, joueur le plus titré de l'histoire de la NBA avec 11 trophées, a affirmé que David était un grand novateur et a fait du jeu que l'on aime ce qu'il est aujourd'hui. Durant son mandat, cette franchise ont été créées et ont intégré la Ligue pour la faire passer à 30 clubs. D'autres ont déménagé et toutes ont considérablement augmenté leurs revenus. Les joueurs aussi, leur salaire moyen est passé de 250 000 dollars en 1984 à 5 millions de dollars en 2014. Des joueurs dont certains sont devenus des stars planétaires comme Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, puis plus tard Kobe Bryant et LeBron James ont été mis en avant par David Stern, conscient qu'il contribuerait à métamorphoser et à populariser la NBA.
Et pour terminer, les résultats des matchs d'hier soir en NBA. Milwaukee, une des grandes équipes de la NBA avec le phénomène grec Antetokounmpo, a battu Minnesota 106 à 104, soit une victoire de 2 points. L'écart a été en revanche plus grand pour l'autre grande équipe de la NBA, les LA Lakers de LeBron James et Anthony Davis, qui ont battu Phoenix 117 à 107, Orlando et Washington 122 à 101, New York et Portland 117 à 93.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, l'opposant Oumaro Sissoko Embalo a remporté le deuxième tour du scrutin présidentiel avec 53,5% des voix face à Domingos Chimoes Pereira, candidat du PAIGC. Ce dernier était pourtant arrivé en tête au premier tour avec plus de 40%, alors que son adversaire n'avait obtenu que 27,65%. Il s'agit d'une remontée spectaculaire pour le candidat du MADEM, une dissidence du PAIGC, le parti historique qui a dominé la scène politique depuis l'indépendance en 1976. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris Vincent Foucher, spécialiste de la Guinée-Bissau et chercheur au CNRS.
Si on fait la somme de tous les opposants dont il a rallié le soutien, en fait, on tombe à peu près sur leur score qu'il a eu. Donc, ça semble indiquer que les reports de voix ont assez bien fonctionné. Et ça semble indiquer qu'il y avait un vote, au fond, assez fort contre le PAIGC, de gens qui avaient choisi différents candidats pour exprimer leur mécontentement face au PAIGC et qui, au deuxième tour, se sont assez massivement ralliés à Sissoko. Maintenant, il faut voir. C'est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes. Il y a une montée, notamment, très, très forte à Bissau, au-delà des scores au premier tour, des camps respectifs. Bon, voilà, c'est un résultat assez spectaculaire, effectivement.
Est-ce que c'est la fin de la domination du PAIGC dans l'espace politique bissau-guinéen?
En tout cas, c'est un tournant. C'est la deuxième élection que le PAIGC perd en Guinée-Bissau depuis le multipartisme, depuis les années 90. Et la première élection perdue, c'était juste après la guerre civile de 98-99, dans une situation très particulière, avec un PAIGC déjà très divisé. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Quand on fait la sociologie du vote, on voit quand même un écart, une particularité, un vote des régions aussi, même si au deuxième tour, finalement, Bissau s'est aussi mise du côté de Sissoko. Je pense qu'on a un ensemble de forces sociales qui expliquent ce qui s'est passé. C'est un vrai tournant pour le PAIGC, sans doute. Oui.
Et Domingos Simões Pereira qui conteste les résultats.
À chaque fois qu'il y a eu une élection à Bissau, il y a toujours des accusations de fraude, mais à chaque fois, et les observateurs nationaux et les observateurs internationaux ont l'air de conclure que les élections se passent bien. J'attends de voir. Moi, je n'étais pas sur place. On a les retours des observateurs qui, pour le moment, ne valident pas l'idée de fraude. Bon, voilà, on va voir quel genre de preuves ils avancent.
Vu que le PAIGC est majoritaire au Parlement, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans la même situation de blocage avec un président et un premier ministre aux couleurs politiques différentes?
Oui, alors le PAIGC est le premier parti, mais il n'a pas une majorité absolue tout seul au Parlement. Donc il avait nommé le premier ministre, mais parce qu'il s'était allié à d'autres petits partis. Et c'est bien évident que là, on va avoir une nouvelle phase un petit peu compliquée qui va s'ouvrir, probablement, même si le candidat vainqueur, Sissoko Embalo, a déclaré qu'il était prêt à collaborer avec le PAIGC. Pour ma part, je suis assez méfiant. Je n'ai pas l'impression vraiment que ça va fonctionner, compte tenu précisément de ressentiment très fort entre les deux camps. Et on va probablement voir des jeux de coalition, de tentative de bouger les coalitions au Parlement, de recréer une majorité parlementaire en faveur de Sissoko. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qui se passe si ça ne va pas marcher? Là, on revient effectivement dans les travers des années précédentes.
Joint à Paris, Vincent Foucher, chercheur au CNRS.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Tchad, deux hauts saints de la classe politique suite au décès mardi à 65 ans de l'ancien premier ministre Joseph Diemrangar Datnadji, leader du cadre d'action populaire pour la solidarité et la République, un parti d'opposition. Monsieur Datnadji avait été admis dans un hôpital de N'Djamena le 26 décembre. Timothée Donaïmaï a recueilli le témoignage de Sali Bougarda, un leader de l'opposition tchadienne, ami du disparu.
Je l'ai vu 48 heures avant la crise d'AVC qu'il a eue. Il s'est porté assez bien. Il est le présager d'une telle issue, parce que nous avons beaucoup discuté. On se connaît depuis les années 79. Pendant cette crise-là, qu'on s'est connu. Beaucoup n'y restait rien pour l'autre. En tout cas, on perd un grand commis d'État. Il a servi d'abord comme fonctionnaire. Il a gravé tous les échelons de l'administration. jusqu'au poste de Premier ministre.
Et justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de son action au niveau du gouvernement?
Au niveau du gouvernement, on ne peut pas retenir grand-chose. C'est-à-dire qu'il a essayé d'apporter un peu de la rigueur technique administrative dans la gestion de la chose publique, mais avec le régime du MPS où nous sommes dans un état de non-droit, il est difficile pour quelqu'un de rigoureux de travailler correctement, de vraiment donner le meilleur de lui-même, parce que c'est vraiment difficile. Et je crois que c'est pour cela qu'il a claqué la porte, hein, parce qu'on a parlé du changement de gouvernement, mais en réalité, c'était une démission. Ça s'est fait avec fracas. Lui, il ne voulait pas démissionner, il voulait même un débat à l'Assemblée nationale pour expliquer sa gestion et les difficultés qu'il a eues. Il a dû renoncer à cela après plusieurs pressions et du conseil.
Djibril Ngardadi a rejoint l'opposition avec son parti Cap Sûr. Quel aurait été son impact sur cette opposition?
Déjà, quand il a créé son parti, peu après, il est allé à l'élection présidentielle. Donc, il s'est fait une place quand même assez importante sur le site. Parce que, selon les résultats, il a tenu, même s'ils ne sont pas totalement fiables, il est arrivé quand même quatrième. Et donc, il s'est taillé une place et aujourd'hui, sa disparition va perturber, va remettre en cause, un peu, va rebattre les cartes au niveau du site politique. Celui va se faire sentir d'une manière ou d'une autre. Et quand même sa connaissance de l'histoire du Tchad. La dernière fois que je l'ai vu, on a parlé des événements 79 dont il était témoin. On a même échangé des documents à propos des différentes réunions qui se sont tenues ça et là, au sein de FAP, de CFAN, etc. Donc c'est quand même un monsieur qui a un parcours riche, qui a beaucoup d'informations, il aurait pu être très très utile.
Salibou Garba, président du parti d'opposition Alliance nationale pour la démocratie et le développement, joint N'Djamena.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, nous revenons sur les faits saillants de l'actualité aux États-Unis au cours de l'année 2019. Une année marquée, entre autres, par la mise en accusation du président Donald Trump à la Chambre. De leur côté, plusieurs candidats se bousculent pour être le porte-étendard du Parti démocrate en vue d'affronter Donald Trump en novembre. Ce dernier continue de profiter des bons chiffres de l'économie, sans oublier le débat sur le port des armes à feu suite aux multiples fusillades qui ont endeuillé plusieurs communautés. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-nous ce jeudi à 19h, temps universel.
VOA Afrique vous invite à présent à découvrir un phénomène qui prend de l'ampleur ici aux États-Unis, le déclin des écoles dans l'Amérique rurale. Les fonctionnaires des collectivités vieillissantes au budget limité ferment ces institutions et transfèrent les enfants dans les grandes villes. Les riverains craignent de perdre non seulement leurs écoles, mais aussi l'avenir de leur ville. C'est le cas à Pulaski, une localité de l'État de Pennsylvanie, où s'est rendu notre collègue Deepak Dobhal. Avec la voix d'Abdourahmane Dia, les réflexions d'un de ses interlocuteurs.
C'était ma première salle de classe. Je suis entré en quatrième année et c'est à ce moment-là que l'école a ouvert. Madame Taylor était mon institutrice. On nous avait dit que le bâtiment était tout neuf et qu'il fallait en prendre soin. Aujourd'hui, ils ferment, ils mettent aux enchères le bâtiment de l'école primaire de Pulaski. Ce bâtiment est situé dans le comté de Pulaski, en Pennsylvanie. Nous sommes à environ une heure au nord de Pittsburgh et l'école a fermé ses portes en 2017. Le conseil scolaire a décidé de fermer le bâtiment et de déplacer les élèves vers l'école principale à New Wilmington. Et enfin, aujourd'hui, c'est le jour où nous allons vendre notre immeuble aux enchères.
With the school being here, we have an identity.
L'école étant ici, nous avons une identité et maintenant cela a disparu. On a perdu cela. Une partie de la communauté est partie. C'est un peu comme votre famille élargie.
It's kind of like extended family.
Je suppose pour beaucoup de gens, cela ne veut rien dire, mais pour les gens d'ici, cela a beaucoup d'importance. Ce que le district scolaire essayait d'accomplir, c'était de réduire les dépenses. Vous voyez ce genre de choses se passer, et c'est comme si le comté était en train de mourir. Lorsque les gens déménagent quelque part, ils cherchent une école, une église, et nous avons perdu nos écoles.
It only hurts for a little while.
Le jour où ils ont voté pour la fermer, dans mon esprit, je pensais que c'était un grand bâtiment. Il devrait y avoir quelque chose qui puisse être fait avec. Je fais partie de la première promotion de cette école et mes enfants ont été de la dernière. Et maintenant, je suis propriétaire du bâtiment, ce à quoi je ne m'attendais pas. Nous espérons faire quelque chose d'utile.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
De nombreuses personnes dans le monde voient dans les magazines et sur les réseaux sociaux des idéaux de beauté franchement irréalistes et finissent par se sentir mal dans leur peau. Ce n'est pas le cas de Jessamine Stanley, qui ne laisse pas son apparence physique, son surpoids, l'empêcher de réaliser son rêve, enseigner le yoga. Karina Bafradzinen s'est rendue à Savannah dans l'état de Géorgie. Son reportage, repris ici par Dilly Dico.
Jessamine Stanley a deux missions lorsqu'elle rentre dans un studio. Enseigner le yoga aux gens et leur en apprendre sur le corps humain.
La plupart des personnes qui viennent à mon cours me disent ignorer que les personnes en surpoids pouvaient faire du yoga. Du coup, je leur demande pourquoi et je leur dis que les personnes en surpoids font toutes sortes de choses.
Jessamine Stanley est heureuse de son apparence. Elle aime son quotidien et elle fait de son mieux pour enseigner aux gens à s'accepter. Mais il lui a fallu du temps pour en arriver là. Pendant des années, cette habitante de la Caroline du Nord a cru que son poids l'empêcherait d'exercer la profession de ses rêves.
La pratique du yoga est destinée à tout le monde. Lorsqu'on ne correspond pas au profil d'une femme blanche, hétérosexuelle, fine et élancée, et généralement riche, alors on a l'impression que le yoga n'est pas pour nous.
Mais à un moment donné, Jessamine s'est rendu compte que le problème ne résidait pas dans les magazines de mode ou la télévision. Elle a compris qu'elle-même doutait de pouvoir réaliser son rêve. Alors, elle a décidé d'être plus clémente avec elle-même et de s'accepter telle qu'elle est. Et là, sa vie a commencé à changer. Contrairement à ses craintes initiales, son studio de yoga est devenu extrêmement populaire et de grandes entreprises comme Kotex et Samsung ont souhaité collaborer avec elle.
Elle est différente, elle est atypique, elle embrasse sa différence. Elle parle de son ventre, de sa poitrine, de toutes ces choses qu'on ne mentionne pas dans un cours de yoga. C'est à la fois réel et brut et nous avons besoin de cela.
Elle est très accessible. Elle a une approche très fondamentale de l'enseignement, si bien que rien de ce qu'elle dit en classe n'est intimidant.
Aujourd'hui, le yoga reste en général une activité coûteuse, mais Jessamine espère le rendre plus abordable. Pour cela, elle a créé une application de smartphone appelée The Underbelly, le bas-ventre, qui propose une multitude d'exercices en vidéo.
Mais j'ai donné ce nom à l'app, car le bas-ventre, c'est la partie la plus vulnérable du corps, celle que nous sommes le plus susceptibles de cacher. Mais c'est en fait celle qui nous donne le plus de force.
Jessamine espère que son exemple inspirera d'autres femmes à lutter contre les stéréotypes et à se débarrasser des préjugés qu'elles nourrissent envers elles-mêmes.
Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.